L'émission littérature Radio Campus Orléans. Nous sommes en direct et par téléphone avec Myriam Anisimov pour parler de Vassili Grossman, un écrivain de combat. Bonsoir Myriam Anisimov.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Ma première question, comment en êtes-vous venu à vous intéresser à ce point, parce que j'imagine que pour écrire cette biographie de Vassili Grossman, cela vous a pris plusieurs années. Comment vous êtes-vous intéressé à ce point, à ce personnage-là? Pourquoi?
Eh bien, d'abord, j'avais écrit par le passé deux biographies, celle de Primo Levi et celle de Romain Gary, et donc deux écrivains qui, de manière différente, ont été affectés par la Shoah. Levi est un survivant d'Auschwitz et Gary a vu toute sa famille exterminée. Il est lui-même un survivant. Et donc, ça m'intéressait, dans ce judaïsme d'Europe orientale anéantie, de cette rencontre avec cette nouvelle figure qui était Grossman, qui lui avait été une sorte de témoin, d'abord dont la mère avait été massacrée dans les premiers jours de l'occupation allemande, et qui avait été le découvreur du camp d'extermination de Treblinka. Donc, ça m'intéressait de voir par ses yeux l'histoire de l'Europe, si vous voulez, appréhendée par ses yeux. Je l'avais vu par Gary sous un rire sardonique, par Levi comme témoin revenant du monde des morts et Grossman entrant dans le monde des morts. Voilà.
Donc, à la base, ce n'était pas tout d'abord un intérêt littéraire?
Ah si, bien entendu, ça va de soi, hein, mais c'était pour replacer ce travail dans un cycle qui remonte maintenant à presque 20 ans. Non, bien entendu, Grossman est un immense écrivain, sans doute, à mon avis, un des plus grands écrivains du XXe siècle, si ce n'est le plus grand, enfin de la deuxième moitié du XXe siècle. Et bien sûr, j'avais lu Vie et Destin et j'avais trouvé que ce livre était extraordinaire, enfin tout à fait stupéfiant.
Peut-être c'est ce qui se ressent dans votre biographie de Grossman, où vous ne vous attachez pas énormément à une étude littéraire de l'œuvre. Vous êtes vraiment dans la biographie et beaucoup moins dans l'étude littéraire de Vie et Destin.
C'est-à-dire que si j'avais choisi cette option, d'abord je savais que la majorité des lecteurs ne savaient pratiquement rien et de l'histoire des Juifs de l'Empire russe et de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Europe et de l'extermination des Juifs. Donc, plus l'histoire du stalinisme et de la terreur en Union soviétique, c'était un morceau d'histoire tellement consistant, tellement important, tellement complexe que déjà, j'étais obligée d'aborder... c'était déjà un problème pour aborder tout ça. C'est-à-dire... le contexte historique si dense et si tragique, et d'autre part, de placer l'écrivain dans cette épopée du XXe siècle. Et alors, si j'avais abordé en détail l'œuvre, d'abord je voulais que ce soit un livre qui donne à lire l'œuvre. Je ne voulais pas me poser en exégète ou en professeur de littérature. Ce qui m'intéressait, c'était de raconter comment cet homme était devenu cet écrivain-là, et pourquoi il était devenu cet écrivain-là. Et j'aborde l'œuvre, mais pas, si vous voulez, j'ai surtout essayé de le replacer dans son environnement historique et culturel, en abordant l'œuvre à chaque fois que je pouvais le faire, que ça s'imposait, mais plutôt du côté de l'histoire littéraire.
Oui, et c'est là votre biographie, moi...
Et de la thématique.
Voilà, m'a intéressé, je l'ai lu comme une biographie d'un écrivain très important qui traverse tout le XXe siècle russe et communiste.
Oui, mais c'est ce qui était étonnant, enfin ce qui m'a aussi très étonnée, et je me suis beaucoup attachée à ça, c'est de montrer comment un marxiste convaincu, un enfant du socialisme réel, devient un écrit une bombe atomique contre le système, se dresse le petit homme seul contre l'appareil d'État assassin. Et déjà ça me semblait être l'objet d'une fresque immense, de sa mutation d'enfant, de pionnier, convaincu, marxiste convaincu, soviétique convaincu qui va devenir non pas l'ennemi de l'Union soviétique, mais l'ennemi de l'État totalitaire.
Voilà, vous venez de parler de ce grand basculement de Grossman. Nous nous y attarderons bien entendu longuement, puisque c'est le moment clé de sa vie. Et ça pose énormément de questionnements, et vous y répondez dans votre livre. Comment Grossman, dans les années 30, commence sa carrière d'écrivain? D'où lui vient sa vocation?
Alors, d'abord, sa vocation, elle ressemble aussi à celle de Primo Levi au début. C'est-à-dire qu'il fait des études, c'est un scientifique, son père est ingénieur, et il fait des études de mathématiques et de physique et de chimie, et son père et sa mère, d'ailleurs, le poussent à devenir ingénieur. Et donc, au début, il est tout à fait enthousiasmé par la science, par le désir de comprendre la structure de l'univers. Il se voit même dans une sorte d'Einstein russe. Enfin. Et puis, petit à petit, lorsqu'il vient faire ses études à Moscou, après avoir étudié à Kiev, eh bien, il découvre que... D'abord, il découvre le monde intellectuel de Moscou, et plus du tout la province, puisqu'il fréquente sa tante, qui est un personnage très important à ce qui est le ministère de la Culture, le commissariat du peuple à la culture. Donc, il est introduit dans ce monde et il a depuis écrit, des petits récits, des petites nouvelles qui ne laissent pas présager que l'auteur sera un immense écrivain, à mon avis. Elles sont tout à fait un produit de la littérature, de comme on appelait ça, le roman industriel, le socialisme. Et donc... C'est sa tante, à mon avis, qui va lui donner quelque espoir d'être publié, déjà. Donc, elle va... Plus il écrit, pour son tiroir, plus il écrit et plus il s'aperçoit que, finalement, la science l'intéresse beaucoup moins qu'il le pensait et que ses études sont devenues un pinsum. Et plus il écrit, mieux il écrit, si on peut dire, il fait des progrès. Et puis le fait que sa tante puisse présenter ses premiers travaux à Maxime Gorki, qui est le patron de la littérature soviétique, le président de l'Union des écrivains, va jouer un rôle déterminant. C'est-à-dire qu'il va écrire son premier récit important, disons, qui mérite l'attention, qui s'appelle « Dans la ville » de Berditchev, et qui va être remarqué pas seulement par Gorki, mais par Isaac Babel et par Bulgakov. Donc, il fait une entrée assez fracassante dans le monde des lettres soviétiques, ce jeune inconnu.
Parce que là, il va faire partie, avant-guerre, du système soviétique des lettres, du système officiel.
Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, il n'y en avait pas d'autres. Il faut quand même ne pas tout de suite le jeter sur lui l'opprobre ou le jeter dans une catégorie. Il n'y avait en Union soviétique... pas de possibilité de s'autoproclamer artiste, c'est-à-dire ou musicien, ou peintre, ou sculpteur, ou écrivain, ou poète. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'individu. Oui, on ne pouvait être qu'admis à l'Union des peintres, à l'Union des écrivains, à l'Union des... D'ailleurs, j'en veux pour preuve le procès de Joseph Brodsky. La première question que lui a posée son juge quand il a été arrêté pour parasitisme social, parce que justement il n'était pas à l'Union des écrivains, elle lui a dit « Qui t'a fait poète ?» À quoi il a répondu « Qui m'a fait homme ?» Mais donc Grossman n'a pas d'autre accès. Tous les écrivains soviétiques faisaient partie de l'Union des écrivains. D'abord, autrement, il serait mort de faim parce que en étant membre de l'Union des écrivains, on recevait des commandes, on recevait un salaire, on recevait l'accès à des économas pour s'acheter des vêtements, à manger tous les produits et pour trouver un appartement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vie en dehors de l'État. Et pour un artiste, c'était impossible.
Et là, vous en avez parlé il y a deux petites minutes, mais vous écrivez, mais rien ne laisse présager dans les nouvelles qu'il publie dans les revues qu'il sera l'auteur d'un livre aussi fondamental sur le totalitarisme russe que vit et destin. Elles sont encore lisibles par nous aujourd'hui, c'est ce qu'il publie alors dans les années 30.
Bah écoutez, dans la ville de Berditchev, c'est assez une belle nouvelle sur sa ville natale, hein, sur cette ville juive qui était la capitale juive de chassidique de la Volhynie. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau, parce que d'abord en Union soviétique, il est malvenu dès à la fin des années 20 même de prononcer le mot juif, et donc il ose mettre en scène, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, il ose mettre en scène une famille juive, hein, une famille de juifs très pauvres qui vont accueillir une commissaire politique enceinte pour accoucher dans leur masure misérable. Alors déjà, le sujet est stupéfiant pour l'Union soviétique de l'époque. Et de montrer la vie de ces juifs polonais, de ces juifs d'Ukraine pauvres et qui accueillent cette commissaire politique, c'est assez extraordinaire. Et qui l'aide à mettre au monde son enfant et qui vont recueillir cet enfant, c'est un sujet explosif. Et ça c'est immédiatement remarqué. Maintenant, il a écrit d'autres nouvelles qui sont tout à fait dans la veine du réalisme socialiste et qui, à mon avis, sont médiocres. Mais ça, c'est un très beau texte. Il écrit aussi un autre texte qui s'appelle Berditchev, trêve de plaisanterie, encore une fois, où il s'insurge contre l'antisémitisme et sur le mépris qui est jeté sur les habitants de Berditchev parce qu'ils sont juifs. Et il essaye, dans cette nouvelle extraordinaire, de montrer que les juifs sont des gens honorables, créatifs, travailleurs. Enfin, c'est aussi très courageux de sa part. Et puis il écrit un roman qui s'appelle Stéphane Kotchougine, qui est un roman industriel, qui est un peu, comment indigeste. Et alors là, qui est typiquement dans la veine du réalisme socialiste. Mais donc, même ces textes-là ne laissent pas présager encore de ce qu'il est capable de faire, en fait. Je ne sais même pas si lui-même en est conscient à cette époque-là.
Avant l'entrée en guerre en 1941, comment vit-il la grande terreur stalinienne?
Eh bien, on dirait, alors c'est très compliqué. On ne peut pas vraiment savoir parce que, bien sûr, régnait la terreur, comme vous venez de le dire, c'était la terreur. Donc, les gens vivaient comme dans un régime de terreur. On ne peut pas savoir réellement ce qu'ils pensaient. Ils ne pouvaient pas écrire librement à ses parents ce qu'ils pensaient, puisque le courrier était censuré. Donc, on ne peut pas vraiment savoir. Maintenant, il n'a pas l'air comme ça quand on le lit. Il n'a pas l'air comment dire. Il écrit une nouvelle, par exemple, qui se passe en Ukraine. Alors, il le dit de façon voilée. Par exemple, il décrit une gare dans une petite ville d'Ukraine avec une vieille femme en haillons, à moitié morte de faim, qui est assise dans la poussière devant la gare et qui mendie. Bon, c'est une victime de l'extermination des koulaks, de la grande famine provoquée pour exterminer les koulaks. Il dit, bien sûr, le mot koulak n'est pas prononcé, et c'est un peu surréaliste, quoi. Il ne donne aucune explication. Alors, il va être lui-même touché dans sa famille par la terreur stalinienne. D'abord, son oncle, chez qui il a été élevé, donc le mari du frère de la sœur de sa mère, qui était un médecin, un personnage très important à Berditchev, qui était médecin, qui était philanthrope, qui avait construit le théâtre, la clinique, alors, qui était un cinéma, qui était donc un bienfaiteur de la ville, va être, bon, on lui confisque ses biens comme à tout le monde, il est riche, on lui confisque tous ses biens, mais non seulement on lui confisque tous ses biens, on l'arrête, on l'accuse de sionisme, hein, c'est l'invention de ce terme qui a eu une longue vie, et il sera, au terme d'un procès expéditif, il sera fusillé en 1938. À la même époque, sa tante, donc celle qui est au ministère de la Culture, est arrêtée, elle aussi, est accusée de trotskisme, c'est comme ça. Et donc, elle a la chance de sauver sa vie, mais elle va passer plusieurs années dans un camp. Donc, il est touché personnellement, mais dans la correspondance que j'ai pu lire, il n'en fait pas état, et on peut très bien le comprendre, parce que s'il en avait fait état, il est probable qu'il aurait fini au goulag lui aussi, ou avec une balle dans la tête. Hein. Donc on ne peut pas tellement bien savoir la part de la prudence ou la part de l'ignorance. Mais à mon avis, nul n'était ignorant, puisque la terreur, c'est la terreur.
Mais il reste patriote.
Pardon ?
Il reste patriote.
Ah mais ça n'a rien à voir. C'est pour ça que les gens qui disent ou qui écrivent que Grossman est un dissident se trompent, enfin, ou abusent d'un vocabulaire absolument impropre à la situation. Grossman n'est pas un dissident. Enfin, je ne sais pas ce qu'il serait devenu s'il n'était pas mort en 1964, mais son idée n'était ni de renverser l'Union soviétique, ni de quitter l'URSS. C'était une critique radicale de l'État totalitaire, mais pas, et c'était un patriote convaincu, ça fait nul doute.
Et là arrive un tournant, arrive la guerre. C'est peut-être là aussi où il va commencer à entrer dans une phase de maturité, à la fois dans son écriture et à la fois dans sa pensée. Arrive la guerre, il devient correspondant de guerre. Et là, il vit un grand destin pendant la guerre.
Oui, alors d'abord, il est très courageux parce que comme il avait eu un début de tuberculose dans les premières années quand il avait travaillé comme ingénieur dans les mines du Donbass, il n'a pas été considéré comme apte à faire son service militaire. Donc, il va se porter volontaire quand le 22 juin, à l'aube, les Allemands franchissent les frontières de l'Union soviétique. Il va immédiatement se porter volontaire et on lui dit qu'il ne peut pas être soldat. Donc, il va se présenter au journal de l'Armée rouge, dont le rédacteur en chef est Ortenberg. Et les gens se moquent de lui, mais Ortenberg a lu les écrits de Grossman et dit « c'est exactement l'homme qu'il me faut ». Donc, malgré l'avis des autres militaires, il va lui faire suivre une formation militaire accélérée dans laquelle Grossman va se révéler extrêmement brillant et même tireur d'élite. Et donc, vêtu de l'uniforme, il va partir comme plusieurs centaines d'écrivains sur le front pour être correspondant de guerre. Presque tous les écrivains, enfin un grand nombre, plusieurs centaines, et beaucoup de juifs parmi eux, sont partis faire les correspondants de guerre pour les journaux de l'Armée rouge. Donc Grossman va tout de suite se singulariser parce que c'est un homme extrêmement, alors qu'il n'a jamais fréquenté les militaires, il est extrêmement courageux, c'est-à-dire qu'il ne vit pas dans les états-majors ou dans les hôtels, il vit sur le front avec les soldats en première ligne. Et donc, ces récits sont authentiques, pleins de renseignements, et très vite, il devient une sorte de, comment dire, d'égérie des soldats et de leurs familles. C'est-à-dire que ces articles publiés dans l'Étoile Rouge sont attendus, lus et même repris dans la Pravda, ce qui est une consécration.
Parce que je vous cite, vous avez ce beau passage pour parler de ces articles. Grossman excelle dans la manière de restituer les choses vues et entendues. Il ne raconte pas seulement les hauts faits, mais le quotidien des soldats qui survivent dans de petites huttes de branchages. La vie des animaux de la forêt l'intéresse autant que celle des hommes en guerre.
Oui, ah oui, ça c'est une chose très, très émouvante et très particulière et spécifique de la pensée de Grossman dans toute son œuvre ultérieure, c'est qu'il traite aussi bien du destin des hommes que celui des animaux. Il avait une compassion pour les souffrances infligées par les hommes aux animaux qui est absolument immense. Et dans son dernier livre, son testament, qui s'appelle « La paix soit avec vous », il compare même le destin des animaux d'abattoir au destin des juifs. Il y a tout un passage étonnant sur un troupeau de moutons qu'on emmène à l'abattoir et il dit ils ont un regard juif, enfin il dit des choses terrifiantes. Et dans tous ses reportages, il est toujours question, à côté des hommes qui meurent, des bêtes qui meurent, oui.
Et c'est aussi ça qui émeut peut-être ceux qui le lisent, qui lisent ses articles.
Ben, c'est-à-dire, c'est un homme de cœur. Il y a dans son écriture, il est très, très classique dans sa facture stylistique, mais il y a une espèce de sincérité, d'authenticité, d'intelligence profonde, comment on pourrait dire, biblique de l'ordre des choses. Enfin, c'est assez étonnant et je pense que les gens se reconnaissaient en lui, très certainement, hein. D'ailleurs, tous les gens qui lisent Vie et Dessin me disent la même chose. Enfin, ils ont une espèce d'un sentiment de révélation, de la compréhension de la marche du monde. Enfin, c'est assez étonnant, hein. Son œuvre, elle ressemble vraiment à aucune autre.
Myriam Anisimov, pendant la guerre, deux choses vont arriver en pleine figure de Grossman. C'est le sort des Juifs et la découverte des camps. Ce sont deux grands chocs qui vont sans doute transformer Grossman, l'homme.
Tout à fait. D'abord, il y a la mort de sa mère, puisque les Allemands pénètrent d'abord en Ukraine et donc ils commencent l'extermination des Juifs par fusillade de masse dès leur arrivée. Et sa mère va être fusillée avec les 35 000 Juifs de Berditchev le 15 septembre 1941. Et il entretenait avec ses parents de toute façon, mais avec sa mère encore plus, une relation extrêmement intime, puisque quand il était à Moscou, il lui écrivait presque tous les jours. Et donc, il se pardonnera jamais la mort de sa mère. Il s'en sent responsable de ne pas l'avoir fait venir à Moscou. Et la deuxième chose qui va, et tout ça fait partie de l'extermination d'un peuple dont il fait partie, c'est à ce moment-là aussi qu'il prend conscience de son appartenance au peuple juif. Et ça, c'est très, très important, surtout dans cette Union soviétique où la spécificité nationale était mal vue, alors que, paradoxalement, toutes les cartes d'identité portaient la nationalité. Et la nationalité juive existait. Mais en même temps, il était interdit d'en parler ou de montrer une quelconque appartenance ou religieuse ou culturelle au judaïsme. Et il va découvrir, en marchant avec l'armée rouge, il est un des découvreurs de l'extermination des Juifs dans les camps d'extermination par le gaz. Donc, il va d'abord pénétrer à Maïdanek, à Lublin, avec Ilia Ehrenbourg et Constantin Simonov. Et le lendemain, il va se rendre dans le camp de Treblinka qui a été détruit par les Allemands, mais où il va découvrir des traces de l'extermination, c'est-à-dire des sacs de cheveux éventrés qui traînent sur le sol, des os, des objets, tout ce qui ont appartenu aux Juifs assassinés. Et c'est quelque chose qui va le bouleverser et qui va complètement changer radicalement sa vision, sa confiance dans l'homme, sa confiance dans l'univers et sa manière d'écrire. C'est-à-dire il va prendre des risques considérables.
Ça le transforme complètement. Et là, il se produit sans doute un basculement. Il va changer de certitude. Est-ce là où il change de certitude?
Écoutez, quand il avait des permissions, il en avait eu quelques-unes hein, pendant les 4 ans de guerre, et qu'il allait à Moscou toujours pour voir son rédacteur en chef ou pour participer à la publication d'une de ses œuvres sur la guerre dans la Pravda ou dans l'Étoile Rouge. Il rencontrait là ses collègues aussi qui étaient aussi en permission, et notamment il avait beaucoup discuté avec Ilia Ehrenbourg, et tous deux, enfin, non, lui, Grossman, pensait, enfin, ou espérait que la guerre, l'héroïsme du peuple russe en guerre, d'abord tout seul au début contre les nazis, laverait l'Union soviétique des crimes du stalinisme. Et puis, là-dessus, Ehrenbourg était tout à fait sceptique, mais Grossman espérait beaucoup et il a été profondément déçu parce qu'au lendemain de la guerre, tout a recommencé comme auparavant. Donc, ça a été pour lui une immense déception. C'est que là, il a perdu toute confiance dans la capacité du régime à fonder une société juste, alors qu'il était devant une société sanguinaire. Et il est allé très loin, puisqu'il est allé, il l'a écrit, et c'est en ça que son livre est une bombe atomique, comme l'avait dit Suslov, il a été jusqu'à mettre en parallèle le totalitarisme soviétique et le fascisme allemand, le nazisme. Il y a dans Vie et Destin cette longue conversation dans un camp d'extermination entre un SS qui pourrait être Himmler ou qui pourrait être Reichmann ou Globotnik, il est venu prendre livraison d'une chambre à gaz, vérifier qu'elle fonctionne bien et repartir à Berlin pour faire son rapport. Et pendant la nuit, il s'entretient avec un vieux bolchevique qu'il va envoyer à la chambre à gaz le lendemain matin. Et dans cette conversation, le SS dit « Nous sommes comme vous et vous êtes comme nous ». C'était vraiment c'était iconoclaste d'écrire une chose pareille.
Et il en vient à écrire et donc à penser une chose pareille à quel moment ? J'essaie de comprendre comment il arrive à penser cela. Est-ce que vous avez parlé de perte de confiance ? Est-ce que cette perte de confiance, elle vient de... parce qu'il a participé au comité juif antifasciste.
Absolument.
Et oui. Il a été actif, donc. Il s'est mis à être presque activiste. Et la perte de confiance, est-ce qu'elle est venue du fait que le livre noir, qui était en train d'écrire le comité juif antifasciste, finalement, sa publication n'a absolument pas abouti. Sa publication est devenue interdite.
Mais ça a été pire que ça, puisque, à part lui et Ehrenburg, les membres du comité, presque tous, à part trois ou quatre, dont lui et Ehrenburg, les membres du comité juif antifasciste ont été arrêtés, torturés et fusillés le 12 août 1952 dans les caves de la Loubianka. Donc, Grossman avait pris de... C'était une initiative de Staline, mais dès qu'il a obtenu des Américains ce qu'il espérait obtenir par l'intermédiaire des Juifs, puisque les choses étaient aussi triviales que ça, une fois qu'il a obtenu l'entrée en guerre des Américains, la livraison de matériel de guerre, surtout de transport de troupes, de carburant, enfin une aide considérable de l'Amérique, il a tout de suite arrêté tout ça et fait arrêter tous les membres du comité juif et donc les juger, les exterminer. Et ça a continué avec à la veille de la mort de Staline, avec la création d'un nouveau procès monté de toutes pièces, qui était la prétendue complot de médecins juifs pour assassiner le gouvernement soviétique, ce qu'on a appelé le complot des blouses blanches. Donc Grossman, qui avait d'abord écrit la première partie de Vie et Destin, qui s'appelle Pour une juste cause, sans qu'il y ait dans ce livre vraiment la trace d'une contestation du régime, c'est plutôt un livre à la gloire des combattants de Stalingrad, il va réécrire, c'est étonnant, presque simultanément, le même livre, avec les mêmes personnages, le même théâtre des opérations, et cette fois-ci, c'est un constat sans appel du régime, un constat sans appel de la criminalité du régime.
Parce qu'en même temps, avec la guerre, vous l'avez bien dit, Grossman découvre sa judéité, découvre son appartenance au peuple juif.
Enfin, il la connaissait, mais il la connaissait bien entendu. Ses grands-parents parlaient yiddish et jamais ses parents se sont cachés d'être juifs. Mais dans l'Union soviétique, il n'était pas, comme je l'ai dit, la spécificité juive était tout à fait peu recommandée, seulement jusqu'au à partir de la fin des années 20. Donc on a fermé tous les journaux juifs, toutes les écoles juives, le théâtre juif, tout a été interdit. Et donc pour lui, c'était comme ses parents étaient quand même, faut voir aussi que ses parents étaient des intellectuels, complètement russifiés, complètement assimilés, pas religieux. Donc jusqu'à la guerre, il s'est senti russe. Il était juif, mais pas plus que ça, quoi. Il était surtout russe. Et avec l'extermination des Juifs et l'antisémitisme d'État en Union soviétique, il est finalement devenu juif.
Puisqu'il y a un grand pas, enfin une grande différence entre ces deux nouvelles dont vous avez parlé au début de l'entretien, ces deux nouvelles d'avant-guerre sur Berdichev et toute la manière dont il s'est conduit avec le comité juif antifasciste. Vous l'avez rappelé, la manière aussi dont il échappe à la mort en 1952 quand ont été liquidés les activistes qui en faisaient partie. Donc là, il échappe à la mort, c'est devenu dangereux pour lui. Là, il y a un grand retournement chez lui entre l'avant-guerre et l'après-guerre.
Vous savez, c'est un miracle. En fait, si Staline n'avait pas eu une attaque cérébrale, il n'est pas certain que Grossman ait survécu, parce que dans la procédure des interrogatoires des membres du comité juif antifasciste, son nom apparaît tout le temps. Donc, il était peut-être le dernier sur la liste. Je pense, enfin, que lui et Ehrenburg ont été épargnés parce qu'ils n'écrivaient pas en yiddish, qu'ils étaient des écrivains russes et qu'ils avaient été considérés comme des héros de la guerre, de la grande guerre patriotique, et peut-être que Staline se disait, mais comment faire passer le fait qu'un héros de la grande guerre patriotique tout d'un coup est devenu un ennemi de l'URSS. Peut-être que s'il n'avait pas eu cette attaque cérébrale, il aurait finalement fait arrêter Grossman. Moi, je pense que, parce que Grossman s'est sauvé quand ça a commencé le procès des blouses blanches et tout ça, il a pris la fuite, il a quitté Moscou, il a été se cacher avec son ami Lipkin dans une forêt hein, à 150 km de Moscou. Donc il sentait quand même l'épée au-dessus de sa tête ou le revolver près de sa tempe.
Et malgré ça, il écrit « Vie et destin ». Et là, il y a un nouveau paradoxe. Il écrit « Vie et destin » et c'est comme si il ne s'apercevait pas à quel point son manuscrit était subversif.
Je pense qu'il le sait, puisque même puisque le manuscrit va être finalement saisi, même avant la saisie de son manuscrit, il n'est quand même pas aussi innocent que ça, puisqu'il a mis à l'abri deux exemplaires du manuscrit. Là. Donc il avait préparé en quelque sorte la possibilité de voir son livre publié au-delà de sa mort. Et donc, il a confié à deux amis qui n'avaient rien à faire avec le milieu littéraire, deux exemplaires du manuscrit. Donc, quand il a été saisi, il a manifesté une grande docilité au KGB quand ils sont venus perquisitionner chez lui, parce qu'il savait qu'il avait deux manuscrits en sécurité.
Il avait deux manuscrits en sécurité, mais du fait que c'est son manuscrit qui a été emprisonné à sa place, il l'a très mal vécu, y compris dans sa chair. Est-ce que vous écrivez très clairement que le cancer qu'il va développer par la suite, le début de ce cancer date de la saisie du manuscrit?
D'abord, il a eu très peur, parce que quand on est venu l'arrêter, il a pensé qu'on venait l'arrêter lui, hein. Donc il a eu une espèce d'attaque cardiaque quand les miliciens du KGB ont sonné à sa porte et qu'ils se sont présentés chez lui. Il a pensé que c'était la fin pour lui. Donc il a eu un malaise cardiaque. Ensuite, on lui a dit cette chose extraordinaire. On est venu arrêter un roman. C'est extraordinaire. Ça prouve aussi quelle place tient la littérature en Union soviétique. À l'époque, on arrête un roman. On ne peut pas concevoir ça chez nous. Donc on est venu arrêter un roman. Et à partir du moment où son roman est arrêté, puisqu'on ne lui restituera pas, et il est confisqué, et bien il est un paria. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais... il ne sera pas exclu de l'Union des écrivains, ce qui lui permet de conserver son logement... une mutuelle de, enfin ce que j'appelle une mutuelle, la possibilité de soigner sa maladie dans les meilleurs hôpitaux, de partir en vacances. Il a plus de commandes, mais il a quand même encore un statut très enviable. Hein. Il faut bien voir que il n'est pas exclu de l'Union des écrivains. On ne l'arrête pas et on ne lui prend pas on n'expulse pas sa famille de son domicile, hein, parce qu'en principe tout ça allait ensemble. Donc, il est dans un statut intermédiaire de paria où personne ne se risque de lui parler, sauf des amis très proches. C'est vrai qu'il devient une non-personne dans le monde littéraire.
Alors, l'écriture de Vie et Destin et les conditions d'écriture de Grossman pour Vie et Destin, ça, c'est quelque chose qui m'a assez captivé. Bon, parce que déjà à l'époque, on pouvait écrire par exemple sur des machines à écrire, mais j'ai constaté qu'il y avait une non-présence de machines à écrire. C'était écrit manuscrit. Ensuite, il y avait des secrétaires qui tapaient le manuscrit. Il y avait différentes versions qui pouvaient circuler, puisque même pour éditer la version définitive de Vie et Destin, il y a eu aussi toute une histoire de cette découverte à un moment donné d'un manuscrit qu'il avait repris que Grossman avait repris à la main. Dans quelles conditions s'écrit Vie et Destin? À la main, ensuite c'est saisi par des secrétaires?
Non, alors oui, il écrivait d'abord à la main et c'est sa femme qui saisissait la première saisie. Parce que c'était des gens très sérieux en même temps, hein, les Russes, ils prenaient la littérature très au sérieux. Donc, dans la tradition littéraire classique, donc il y avait lui-même avait une machine à écrire, mais c'est sa femme lui, il écrivait à la main, sa femme tapait à mesure de façon non professionnelle et ensuite tout ça était très 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 bien organisé. L'Union des écrivains fournissait des dactylos professionnels qui saisissaient le texte de façon professionnelle. Ensuite, les textes paraissaient d'abord en revue, hein, en Union soviétique. Donc la maison, la revue qui avait passé le contrat fabriquait, lisait. Censurait, demandait des modifications, ça pouvait durer des mois, voire des années. Et puis tout d'un coup, on fabriquait des épreuves, et là encore, les épreuves passaient à la censure, c'est-à-dire au politburo, enfin à la personne au politburo qui était chargée de la littérature, et on pouvait, comme ça a été le cas pour Grossman, pour Une juste cause, fabriquer successivement et détruire successivement 5, 6, voire 7 jeux d'épreuves différents. Donc Grossman, il est dans la situation de tout le monde, il est même favorisé, donc il a des secrétaires qui tapent son manuscrit. Ça veut pas dire, c'est pas parce qu'il n'a pas de machine, c'est comme ça que ça se passe en Union soviétique. Ensuite, donc, il y a la fabrication des épreuves, et jusqu'au dernier moment, on peut interrompre l'impression au milieu d'un chapitre. Ça arrivait très souvent. Et quand ça arrivait, en général, l'auteur était déjà mort dans la nuit.
Et pour Vie et Destin, donc ça suit son cours normal, c'est lu en revue, et là ça met ceux qui le lisent dans une situation impossible, ils sont presque obligés de pratiquer de la délation à son
Non, ils sont
encontre.
pas obligés, mais ce qui se passe, enfin, Grossman a commis, là, vous me demandez dans quelles conditions. Donc, il écrit son livre. Et là, c'est très dommage parce que la première partie de Vie et Destin, enfin, qui s'appelle Pour une juste cause, mais qui à l'origine s'appelait Vie et Destin, était parue dans la plus prestigieuse revue qui s'appelle Novimir, donc Le Nouveau Monde, qui était dirigée par un très très bon poète qui s'appelait Twardowski, qui était assez courageux et qui essayait, comme il pouvait, de faire passer des textes tout en les censurant, mais il arrivait à obtenir de la censure, de publier des textes. Et notamment, il s'était battu pour une juste cause, pour Grossman. Mais quand Staline et un des critiques qu'il avait chargé de démolir Grossman a pris l'affaire en main en désignant Grossman comme ennemi du peuple, Twardowski, qui a eu peur d'être arrêté, s'est renié, a dit qu'il avait fait une erreur et il a fait son autocritique. Il disait avoir fait une erreur d'avoir publié pour une juste cause. Et Grossman ne lui a jamais pardonné. C'était un homme très rigide, très très moral et qui exigeait beaucoup des autres. Et donc il s'est fâché avec Twardowski et Twardowski n'aurait jamais été remettre le manuscrit de Vie et Destin au KGB. Il lui aurait dit: ton livre est impubliable, je ne peux pas, je ne veux pas finir en prison, cache-moi ça dans un trou, mais il n'aurait pas été le donner. Et donc Grossman a remis son manuscrit à une autre revue beaucoup moins prestigieuse, dont le rédacteur en chef était complètement inféodé au régime. Et donc, quand il a lu ça, il a eu une trouille phénoménale, même de l'avoir en sa possession, et il a été le porter au KGB. Donc, c'est Grossman qui s'est mis lui-même dans la gueule du loup, quoi, par sa rancune contre Twardowski.
Et Vie et Destin aurait-il pu pu connaître un autre destin en Union soviétique et être
Oui, s'il
publié à
avait
ce
pas.
moment-là?
Alors, oui,
Aurait-il pu
absolument.
être publié à ce moment-là?
Non, publié, non, mais ce qu'il aurait pu faire et ce qu'a fait Pasternak, c'est-à-dire que Grossman n'était pas du tout mondain. Il connaissait pas les journalistes étrangers. Il fréquentait, vous voyez, il n'avait pas de relations comme ça. Alors que Pasternak fréquentait la presse étrangère, était une star, et donc il a pu transmettre son manuscrit qui est paru, comme on le sait, d'abord en Italie, le docteur Givago. Grossman n'a pas eu cette possibilité. Donc, il a dit sur son lit de mort qu'il souhaitait que son livre franchisse les frontières de l'Union soviétique, ce qui est arrivé finalement. Mais donc, de son vivant, il n'y avait aucun espoir que le livre ne paraisse. Ça, c'était impensable. C'est déjà, je vous dis, un miracle qu'on ne lui ait pas collé une balle dans la tête.
Et à aucun moment, il a l'idée de fuir l'URSS.
Mais on ne fuyait pas l'URSS, c'est beaucoup plus tard, hein. À part Kravtchenko, l'affaire Kravtchenko en 49, à cette époque-là, c'est pour ça que je prétends que la dissidence n'était pas encore apparue, Grossman n'est pas un dissident, et les premiers dissidents, ce sont les juifs soviétiques qui se mettent dans les rues avec des drapeaux de l'État d'Israël ou avec des étoiles juives et qui disent, nous sommes des parias dans la société soviétique, nous voulons quitter l'URSS, il y en a qui essayent de prendre des avions et de s'envoler hors de l'URSS. Ça, c'est la dissidence. Mais Grossman n'est pas du tout dans cette période-là, hein. C'est 15 ans plus tard, tout ça. Grossman n'est pas quelqu'un qui veut quitter l'URSS, en aucun cas.
Mais il a pris un grand risque en écrivant Vie et Destin.
Ah oui, il
Et
prend un
il y
risque.
a risqué sa vie.
Il a risqué sa vie, ça très certainement, le bien-être de sa famille. Il a été courageux, mais je pense qu'il a, c'était, comme il l'a dit, hein, et comme il l'a écrit sur son manuscrit final, c'était cette œuvre qu'il dédiait à sa mère. Donc pour sa mère, pour cette mère qui était morte de façon si atroce, il a risqué sa vie. Ce qu'il n'avait pas fait pendant la guerre, c'est-à-dire qu'il s'était jamais pardonné de ne pas être allé la chercher pendant qu'il était encore temps. Il y avait une toute petite fenêtre pendant au début du mois de juin, disons pendant le mois de mai, quand les bruits de bottes se sont rapprochés, il aurait pu prendre le train et aller à Berditchev chercher sa mère. Et sa mère, bon, il ne l'a pas fait et cette chose-là, il se l'est jamais pardonné, parce qu'après c'était trop tard. Il y avait le ghetto a été institué tout de suite et il n'y avait plus de possibilité.
Et c'est cet élément-là majeur qui représente le tournant, le basculement dans sa vie, qui lui donne tout ce courage incroyable qu'il a eu.
Oui, à part ça, il faut quand même voir aussi autre chose, en dehors de son histoire personnelle, c'est sa capacité grande, enfin extraordinaire d'analyser le système, hein. Parce qu'il est à l'intérieur du système, il n'est pas à Paris ou à New York ou à Londres en train de regarder l'Union soviétique. Il est à l'intérieur. Les intellectuels français étaient inféodés à l'époque à l'Union soviétique. Même de loin, ils ne voyaient rien. Et lui, qui est donc plongé dans cette réalité, qui la vit tous les jours, est capable de s'élever très très haut pour d'avoir une vue spatiale, on peut dire, de ce régime criminel. C'est tout à fait quelque chose de presque surhumain.
Merci beaucoup, Myriam Anisimov. Merci à vous de nous avoir parlé de Vassili Grossman avec autant de passion.
Merci.
Au revoir, merci à vous.
Bonsoir.
On était donc avec Myriam Anisimov. Nous avons parlé de Vassili Grossman, un écrivain de combat,